bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les malades sont déjà des milliers à recourir clandestinement au cannabis pour se soulager. Cet usage pourrait être légalisé en France. Un comité d'experts s'est en tout cas penché sur la question. Retour sur ces propositions dans un instant. Vous entendrez ensuite comment les élus militants ou syndicalistes s'organisent pour mobiliser les citoyens contre la privatisation d'Aéroports de Paris. La campagne a été lancée officiellement hier. Dans ce journal encore, nous vous expliquerons le rôle des postes clés au sein de l'Union européenne. Après les élections, les 28 doivent se mettre d'accord sur des noms. Et puis, les descendants d'esclaves aux États-Unis seront-ils indemnisés? La question se pose en ce moment, en ce début de campagne présidentielle outre-Atlantique. Le cannabis thérapeutique sera-t-il bientôt expérimenté en France? On s'en approche en tout cas. Le comité d'experts mandaté par l'Agence du médicament il y a quelques mois vient de rendre public un projet d'expérimentation. Il préconise que certains médecins spécialistes volontaires puissent prescrire du cannabis thérapeutique. Un projet qui ouvre tout de même une porte et un espoir, surtout pour les malades, Véronique Julia.
L'expérimentation proposée, si elle se confirme, concernera 5 pathologies en particulier. Les douleurs liées aux nerfs, les épilepsies sévères et résistantes au traitement, les effets secondaires en cancérologie, les soins palliatifs et les troubles musculaires liés à la sclérose en plaques en particulier. Ce sont des médecins volontaires et formés spécifiquement qui pourront prescrire. Le cannabis sera administré sous forme orale ou inhalée, jamais sous forme de joint. Au bout de 2 ans, un bilan sera fait de l'expérimentation pour voir s'il y a lieu ou pas de généraliser cet usage médical. Des patients éventuellement concernés, on sait qu'il y en a des dizaines de milliers en France, mais l'expérimentation ne concernera qu'une poignée d'entre eux, 1500 à 3000 patients seulement. Fabienne Lopez préside l'association Principe Actif qui fédère ces patients. Évidemment, elle applaudit ce premier pas, mais regrette aussi qu'on avance trop lentement sur le dossier.
Le mettre en expérimentation, je trouve ça un peu douloureux quand même pour les patients, parce que ça veut dire que c'est 2 ans d'attente, quoi. Et qui va participer à l'expérimentation? La grande question aussi. Donc, on voit bien qu'il y a une porte qui s'est ouverte, mais c'est un peu timoré.
Autre critique, le nombre de maladies retenues pour l'expérimentation, trop limité d'après l'association qui aurait aimé qu'on y ajoute notamment les migraines ou la fibromyalgie. D'après les experts, le coût d'un traitement au cannabis revient à 10 voire 15 euros par jour. Si le ministère donne son feu vert, les premiers patients pourraient démarrer l'expérimentation dès le premier semestre 2020.
Et pour rappel, hier, plus de 70 personnalités, dont des anciennes têtes de liste aux européennes, Yannick Jadot et Raphaël Glucksmann, toutes ont appelé les pouvoirs publics à agir vite au nom du pragmatisme, écrivent-elles dans une tribune. La photo était peu banale hier soir à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Devant près de 250 personnes, les députés Les Républicains Gilles Carrez et François Cornu-Gentil étaient aux côtés des élus La France Insoumise, Clémentine Autain et Éric Coquerel. Il y avait également Olivier Faure du PS et Fabien Roussel du PCF, tous réunis pour lancer la campagne contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Ils ont 9 mois pour rassembler les 4 700 000 signatures nécessaires pour organiser ensuite un référendum. Elles sont recueillies, ces signatures, sur un site du gouvernement qui manque actuellement d'ergonomie. C'est ce qu'a reconnu en tout cas le ministère de l'Intérieur la semaine dernière. Une plateforme a donc été créée pour aider les citoyens désireux de signer. Présentation de cette plateforme avec l'historien et politologue Patrick Veil, présent hier à la soirée.
On va permettre aux gens d'avoir des badges, des autocollants volontaires du référendum. Ils vont pouvoir se promener au bureau, dans le métro, sur les plages cet été, dans les marchés. Avec notre plateforme, ils seront aidés pour pouvoir aider eux-mêmes, des gens de leur famille, des voisins, des camarades de travail, à remplir le formulaire. Et voilà, le formulaire n'est pas facile à remplir. Il y a des gens qui se sont arrêtés d'essayer après avoir tenté plusieurs fois. Et on va, avec notre plateforme, aider les gens avec des arguments pour pourquoi remplir, pourquoi demander le référendum, et aussi une fiche technique sur comment remplir le formulaire sans être bloqué à un certain moment. Donc on va mettre à disposition de ceux qui le souhaitent des matériels pour qu'ils puissent devenir des militants de l'inscription pour le référendum.
Des propos recueillis par Anne Fauquemberg. Nicolas Sarkozy sera jugé pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Son dernier recours a été rejeté hier. La date du procès n'est pas encore arrêtée. EDF sera-t-elle divisée en deux? La direction doit présenter ce matin au syndicat ses pistes pour une refonte du groupe en profondeur. L'électricien public se débat avec une dette de 33 milliards d'euros et doit faire face également à un mur d'investissement de près de 100 milliards pour son parc nucléaire. Le projet proposé s'appelle Hercule. Il vise à découper EDF en deux grandes filiales et à procéder à des privatisations partielles. Les syndicats y sont déjà opposés, Grégoire Lequelot.
Une dette de 33 milliards d'euros, un mur d'investissement de près de 100 milliards d'euros pour financer la rénovation du parc nucléaire. L'État a jugé nécessaire une restructuration d'EDF. Elle ne rimera pas avec destruction, jurait le PDG Jean-Bernard Lévy lors de l'Assemblée des actionnaires au mois de mai.
Il ne s'agit pas d'un démantèlement. Le groupe EDF restera un groupe intégré, ce sont les mots du président de la République. Mais cela n'interdit en rien de réfléchir à une organisation différente de nos activités.
Baptisé Hercule, le projet vise à diviser en deux les activités du groupe. Une première filiale avec le nucléaire, les grands barrages et les centrales thermiques. Elle serait 100% publique. La seconde filiale serait en partie privatisée avec les réseaux d'acheminement d'électricité, RTE, la distribution et les énergies renouvelables avec Enedis. Les syndicats dénoncent un plan qui offrirait les pépites rentables aux privés, tandis que la filiale publique supporterait les activités plus coûteuses. Alexandre Gria de la CFE-CGC Énergie.
La réorganisation que constitue le projet Hercule ne répond en aucun cas à la question de fond qui est la capacité d'EDF d'avoir les moyens d'investir pour assurer la pérennité du service public.
Ce matin, ce sont des syndicats sceptiques que Jean-Bernard Lévy tentera de convaincre. Il espère présenter son plan d'ici la rentrée au gouvernement.
L'association de défense des animaux et de la cause végane L214 dévoile une nouvelle vidéo ce matin. Les images ont été tournées dans le premier centre privé européen de recherche en nutrition animale. Il se situe dans la Sarthe. On y voit notamment des vaches à hublots, des poulets tellement gros qu'ils arrivent à peine à se tenir sur leurs pattes. L'association L214 annonce qu'elle va porter plainte. On les appelle les postes clés, des postes qui font l'objet d'âpres négociations entre pays européens réunis à Bruxelles aujourd'hui et demain. Le grand mercato a débuté avec les élections européennes le 26 mai dernier pour savoir qui prendra la présidence du Parlement, qui au Conseil européen et surtout qui à la tête de la Commission européenne. Ce dernier poste conditionne tous les autres, Louise Baudet.
Le président de la Commission de Bruxelles, un Premier ministre sous tutelle. Il pilote, c'est vrai, l'exécutif de l'Union, mais attention, les directives et décrets qu'il propose doivent être validés par le Parlement européen et les États membres, pouvoir partager et prérogatives plus limitées qu'on l'imagine. Les États membres, justement, vont eux aussi se choisir un représentant, président du Conseil européen. Job, là aussi, à temps plein. Il est de toutes les négociations clés. Crise de la dette, Brexit, migrants, et doit avant tout gérer les désaccords entre chefs d'État et de gouvernement. Des États souvent jaloux de leurs prérogatives, notamment en matière de politique étrangère. C'est tout le problème du haut représentant pour la politique extérieure de l'Union. Poste créé en 2009 afin de renforcer la voix de l'Europe à l'international. Mais chacun tient à sa souveraineté et la diplomatie européenne n'est même pas mentionnée dans les traités. Les États qui ne sont toutefois pas les seuls à décider, les eurodéputés gagnent peu à peu en autorité et les bras de fer sont fréquents, d'où le rôle décisif du président du Parlement, quatrième poste clé pourvu lui début juillet.
Et pendant ce temps-là, Grande-Bretagne fait toujours partie de l'Union européenne. Deux nouveaux tours de scrutin seront organisés aujourd'hui au sein du Parti conservateur britannique. Il s'agit toujours de déterminer les deux finalistes dans la course à la succession de Theresa May. Ces deux derniers candidats seront ensuite départagés par un vote postal, vote des 160 000 adhérents du parti. La campagne pour la présidentielle américaine de 2020 est lancée et avec elle les sujets polémiques, ça y est. Les États-Unis commémorent cette année par exemple le 400e anniversaire de l'arrivée des premiers esclaves africains dans l'État de Virginie. Se pose la question de la possible indemnisation des descendants de ces esclaves. Hier, la Chambre des représentants en a débattu. Les faits ce matin avec notre correspondant Grégory Phillips.
En 1865, alors que la guerre de sécession vient de s'achever, Abraham Lincoln promet d'octroyer 40 acres de terrain et une mule à chacun des 4 millions d'esclaves noirs libérés, mais sa parole ne sera jamais respectée. Plus de 150 ans après, le débat sur l'indemnisation des descendants d'esclaves refait surface, porté notamment par l'écrivain afro-américain Ta-Nehisi Coates, qui hier à la Chambre disait ceci. Il est impossible d'imaginer l'Amérique sans l'héritage de l'esclavage. Aujourd'hui, une famille moyenne noire américaine est 10 fois moins riche qu'une famille blanche. Aujourd'hui, les femmes noires meurent au moment de l'accouchement 4 fois plus que les femmes blanches. Et bien sûr, dans ce pays de la liberté, il y a cette honte. Les descendants des esclaves forment la plus grande partie de la population carcérale. Plusieurs candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020 soutiennent le projet, mais ne détaillent pas les mesures qu'ils prendraient pour le mettre en œuvre. 35 millions d'Afro-Américains pourraient être concernés et la mesure pourrait coûter jusqu'à 10 000 milliards de dollars selon le degré de compensation retenu. Dans un sondage réalisé en 2015, 52% des Noirs américains soutenaient ce projet, 89% des Blancs interrogés s'y opposaient et le patron de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a dit hier que ce n'était pas une bonne idée de vouloir réparer des faits remontant à plus d'un siècle et demi.
Le temps de ce jeudi en France, il s'annonce orageux des Pyrénées jusqu'au nord-est, sur l'ouest du pays. Les conditions sont nettement plus calmes avec un ciel bien ensoleillé ce matin. Il fait 17 degrés à Nantes, 18 à Paris, 20 degrés à Bordeaux, 25 à Marseille.